Chapitre 38. Lorsque Saga a réalisé qu'elle n'avait pas réussi à sauver Francesca, elle s'est enfermée dans les toilettes de la NOA et a resté longuement assise sur la lunette, les bras croisés contre sa poitrine et les yeux fermés. Elle pensait réellement avoir une chance d'y arriver cette fois-ci. Elle a fini par rentrer chez elle avec une sensation insupportable dans le ventre, une angoisse vertigineuse. Mais elle a vite compris qu'elle ne pourrait rien avaler et qu'elle ne pouvait pas non plus rester à ne rien faire. Elle s'est rendue au club de boxe de Narva, même si elle n'en est plus membre depuis des années. La réception est déserte et la lueur grise du distributeur de boissons rafraîchissantes éclaire le mur où sont encadrées des photos de membres célèbres et des affiches de divers championnats. La grande salle d'entraînement sent la sueur, le liniment et le détergent. Des bruits lourds retentissent, tandis qu'un homme baraqué se déplace autour d'un sac de frappe en assénant des coups. Deux jeunes se relaient sur le banc de musculation et une femme en sweat à capuche rouge fait des pompes sur le côté du ring. Saga saute à la corde à un rythme soutenu tout en travaillant son jeu de jambes. Elle essaie de retrouver mobilité et légèreté. Mon ancien entraîneur disait que ses pieds devaient à peine toucher le sol. C'est avec les pieds qu'on gagne un match, avec des mouvements qui surprennent et semblent défier toute logique. Cette nuit, elle a encore réfléchi aux 7 ponts de Königsberg sans trouver de solution. Il faut qu'elle organise ses idées, qu'elle se concentre. La NOA agit de plus en plus rapidement à tous les niveaux, mais dans le même temps, les énigmes se complexifient. Le prédateur tue les gens qui l'entourent pour faire pression sur elle, pour personnaliser la traque, pour augmenter les enjeux. Heureusement qu'elle n'a pas de famille qui pourrait se trouver dans la ligne de mire. Plus tôt dans la journée, elle a contacté l'Institut suédois pour la trisomie et a expliqué qu'elle devait faire une pause dans son accompagnement. Bien que les victimes semblent être des personnes avec lesquelles elle est entrée en conflit, elle ne veut prendre aucun risque avec Nick et Astrid. La 9e balle est destinée à Juna et elle seule peut le sauver. C'est son amie. Elle le sait. Même si elle ne comprend toujours pas comment il a pu la laisser seule avec Jurek, le punching ball commence à s'agiter derrière elle. Une femme au crâne rasé s'entraîne à donner des coups de poing, le visage crispé. Saga regarde l'horloge murale, dont le verre fissuré a été réparé à l'aide d'un gros scotch, et voit qu'elle saute à la corde depuis 65 minutes. Elle s'arrête et souffle. Elle balance ensuite la corde à côté de son sac de sport, fait quelques pas, les jambes lourdes et les mollets tendus, s'arrête de nouveau et tente de reprendre sa respiration en posant les mains sur ses cuisses. La sueur dégouline le long de son visage et goutte sur le sol en plastique craquelé. Le dos de son t-shirt est trempé. Saga a arrêté la compétition il y a des années, mais ce soir, elle a décidé de reprendre l'entraînement. La boxe l'aide à se concentrer, à se vider la tête des pensées inutiles. Elle sort son portable du sac, lit le rapport final de l'équipe de Randy, hésite quelques secondes avant d'appuyer sur son numéro privé. « Comment tu vas ?» demande-t-elle. « Bien, je crois. Contente d'entendre ta voix ?» répond-il. « Désolé d'avoir eu un ton aussi vif aujourd'hui. C'est pas grave. T'es une situation extrême, de la pure folie. » soupire-t-elle. « Comment tu te sens ?»« Je ne supporte pas qu'on n'ait pas pu la sauver. » murmure-t-elle. « Je sais. » Les lumières du plafond éclairent le sol en PVC blanc du ring de boxe. Son ancien entraîneur avait l'habitude de montrer du doigt l'accumulation de traces de semelles pour indiquer les zones rarement utilisées. « Tu fais quoi, là ?» demande-t-elle pour rompre le silence. « Je suis chez moi. J'allais mettre une lessive en route. Linda va bientôt rentrer. Est-ce qu'on peut se parler encore un peu ?»« Tu sais, c'est pas facile pour elle. » Elle est tellement jolie. Je sais, mais c'est pas comme ça qu'elle se sent après t'avoir vu. Arrête. Tu sais très bien ce que je pense, mais c'est comme ça de toute façon. L'interrompt-il. Elle dit que je la quitterai, J'oublierai l'avenir, tout ce qu'on a planifié ensemble, et que je courrais te retrouver si tu me le demandais. Tu le ferais ? Demande Saga avec gravité. La femme au crâne rasé se masse l'épaule gauche pendant un instant, puis se remet à cogner sur le punching ball. Saga, j'ai jamais compris pourquoi t'avais rompu. Pourquoi tu m'avais pas laissé t'aider ? J'étais là pour toi. Ça aurait été bien pour nous deux. Tu m'as dit que c'était fini, mais je t'ai attendu, tu sais. Je t'ai attendu pendant des années. Tu n'aurais pas dû. Saga voit que Rick est sur le ring avec l'entraîneur Sacha Smedberg. Ils mettent leurs casques et commencent doucement à se chauffer. L'entraîneur accélère le rythme, accule Rick dans un coin et lui assène un violent coup de poing. Un balai appuyé contre les cordes tombe sur le sol en un claquement. Rick esquive, donne quelques coups de poing du gauche, puis effectue deux crochets rapides comme l'éclair. Je suis heureux avec Linda. On a commencé à parler d'enfants. Dit Randy d'une voix triste. Ah, je suis contente pour toi. Mais si tu me donnais une nouvelle chance là, maintenant, j'enfilerais ma veste et mes chaussures et je partirais sans me retourner. Je sais que tu ne le penses pas. Peut-être. Eric reçoit une droite sur le crâne. Recule d'un pas, fait un mouvement circulaire avec le haut du corps, balance un crochet du gauche en même temps qu'il reçoit un violent coup de poing dans les côtes. Randy, je suis incapable de rendre quelqu'un heureux. Je ne le pourrai jamais. Dit Saga, qui sent son cœur tomber dans un abîme. Il y a quelque chose qui cloche en moi. Quelque chose qui... Elle entend qu'on sonne à la porte de chez lui. C'est elle ? Oui. Va lui ouvrir. Dit Saga avant de raccrocher. Elle déglutit. Balance son portable dans son sac, boit un peu d'eau dans sa bouteille en plastique, attrape une paire de gants rouges, les enfile et serre les velcros avec sa bouche. Des pas rapides résonnent sur le ring. Eric remonte ses avant-bras pour se protéger le visage, puis met un uppercut à son adversaire et à la seconde suivante, il le frappe au visage dans une combinaison de coups. L'entraîneur lève la main gauche, enlève son casque, vacille, s'appuie sur les cordes et souffle bruyamment. « Désolé !» s'amuse Rick. Rick Santos a 23 ans, il est membre de l'équipe de compétition du club et on dit déjà de lui qu'il pourrait faire partie de la prochaine équipe olympique. Saga se souvient de lui lorsqu'il a rejoint le club. Il était timide et maigre, toujours pieds nus, et il portait un jean coupé en guise de short. Elle s'approche du sac de frappe le plus lourd, réparé à l'aide de rubans adhésifs, et commence à enchaîner des crochets du gauche. « Ils doivent arriver de nulle part !» disait toujours son entraîneur. Elle teste des combinaisons sur le sac de frappe tout en pensant au message que Stéphane Broman, l'anesthésiste, a laissé sur sa boîte vocale afin de lui demander de passer ce soir à son appartement de Solna pour une fête d'anniversaire. Stéphane ne l'a jamais invité à une fête auparavant. Il ne l'a jamais appelé pour lui dire de venir. Saga sait ce que signifient ces appels répétés et essaie de se convaincre que ça ne doit pas la rendre triste. Au cours du dernier mois, il lui a dit à plusieurs reprises qu'il voulait faire un film dans lequel lui et ses amis médecins auraient des relations sexuelles avec elle. Elle a ri en disant que ça n'arriverait jamais, mais elle a compris, à son ton tranchant, qu'il avait déjà lancé l'invitation et qu'il leur avait promis qu'elle viendrait. Saga commence à travailler ses triceps et ses épaules afin d'avoir une plus grande puissance de frappe. Des mèches de cheveux volaient autour de son visage. La chaîne du sac de frappe s'agite et couine. Elle perd la notion du temps et frappe de plus en plus fort. Un craquement fait vaciller la fixation au plafond et des miettes de béton tombent sur le sol. Elle s'arrête lorsqu'elle s'aperçoit que Rick la regarde en souriant. Il s'est douché et s'est changé. La femme au crâne rasé n'est plus dans la salle. Un jeune homme est en train d'installer des haltères et des kettlebells. « Saga Bauer ?» dit Rick en s'avançant vers elle. « Rick, c'est ça ? Tu connais mon nom ? » sourit-il. « J'ai entendu dire que tu te débrouillais bien. Sacha trouve que je m'entraîne pas assez. C'est toujours comme ça. Il m'a dit de te dire que la douche des femmes est fermée. Ah, soupire-t-elle en touchant son t-shirt trempé. Je sais. Tant pis, dit-elle en ramassant son sac par terre. Si tu veux, tu peux prendre une douche chez moi. J'habite tout près d'ici, propose-t-il. Merci, mais je vais rentrer, répond-elle, en réalisant au même moment qu'elle ne supporte pas l'idée d'être seule ce soir. Enfin, oui, si ça t'embête pas. Non, putain, aucun problème. Ok, alors je veux bien, sourit-elle. Elle se dirige vers les vestiaires. Des rires se font entendre en provenance des douches des hommes. Dans le vestiaire des femmes, une croix au ruban adhésif barre la porte des douches. Saga enfile sa veste par-dessus ses vêtements d'entraînement et fourre ses habits propres dans son sac en toile. Lorsqu'elle arrive à la réception, Rick range son portable dans sa poche. Elle le suit dans l'air frais du soir et commence à marcher à ses côtés en direction d'Odenplan. « J'ai vu un de tes matchs, » dit-il. « Je ne me souviens plus du nom de ton adversaire. Elle venait de Hongrie. Et comment ça s'est passé ?»« Tu l'as mise KO en 10 secondes, je crois, » sourit-il. « Ah, ta combinaison de coups était vraiment cool. J'ai essayé de la copier. »